Europe 1.
Europe 1. 15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes le 4 août 1957 sur le circuit le plus long du monde, le circuit du Nürburgring. Et une victoire à ce Grand Prix d'Allemagne permettrait à l'Argentin Juan Manuel Fangio de devenir champion du monde de Formule 1. Sa Maserati au nez jaune est vive, rapide, mais elle a un défaut, ses pneumatiques. Ils ne tiendront pas les 22 tours de la course, il faut prévoir un arrêt au stand, au contraire de ses rivaux chez Ferrari. Qu'à cela ne tienne, tout a été soigneusement calculé et le mécanicien en chef garantit un arrêt de 30 secondes maximum. À charge pour le pilote de rattraper cette demi-minute sur la piste. Et ça ne rate pas. Fangio, qui a signé le meilleur temps des essais, s'élance avec le réservoir à moitié vide. Il prend la tête et bientôt creuse l'écart. 7 secondes par tour. Au 12e, quand il rentre au stand, tout va bien. Il a 28 secondes d'avance. Confiant, Fangio s'extirpe de sa monoplace pour se désaltérer. Bueno, tout se passe comme prévu. Sauf que un lutin malicieux a sans doute voulu pimenter l'affaire. Un écrou s'échappe lors du changement de pneu et roule sous la voiture. Les mécanos l'ont perdu de vue. Ils cherchent encore. Les secondes s'égrènent, interminables. 20, 30, 40, 48 secondes, autant dire une éternité. Quand Fangio enfin peut repartir, il a près d'une minute de retard sur les deux Ferrari qui font la course en tête. Il reste 10 tours. C'est fichu. Impossible de les rattraper. Impossible ? Non. Fangio ne connaît pas ce mot. Il serre les dents, ses yeux gris acier fixés loin en avant sur la piste. Il repart plein gaz, déterminé. Maintenant, il ne pilote plus. Il vole. Il prend tous les risques. Les spectateurs en frissonnent d'effroi. La Formule 1 est un sport dangereux. 30 pilotes au moins se sont tués pendant ces années 50. Mais Fangio accélère. Il bat une fois, deux fois, trois fois son record du tour. Les secondes, il va les chercher avec ses gros bras de lutteur qui se déplacent autour du volant avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie. Ses mains se placent à 9h15 sur le volant, à l'approche du virage, puis à 11h15, puis à 5h et enfin 9h15 pour contrôler le dérapage de son bolide. Il remonte le temps en faisant crisser la gomme sur l'asphalte. À l'avant-dernier tour, les Ferrari sont en vue. Peter Collins, le prodige anglais, résiste, mais Fangio met deux roues dans l'herbe pour le doubler, empocher la victoire sur le fil et devenir donc champion du monde de Formule 1 pour la 5e fois. Fangio est allé au bout de lui-même. « J'ai fait des choses que je n'avais jamais tentées au volant et pour un empire, je ne voudrais pas recommencer », expliquera-t-il. C'est ici sa dernière victoire en Grand Prix. Le pilote argentin quitte la scène en pleine gloire. L'homme aux allures de paysan de la Pampa à 46 ans, il sort du circuit et il entre dans la légende. Quand il remporte son 5e championnat du monde en 1957, Fangio est déjà un héros national en Argentine. Preuve que c'est son pilotage qui fait la différence s'il triomphe cette année-là sur Maserati. L'année d'avant, c'est avec Ferrari qu'il a gagné et les années précédentes avec Mercedes. Et en 1951, année de son premier sacre, il pilotait une Alfa Romeo. Stirling Moss, son grand challenger anglais, dira plus tard « Fangio aurait conduit une brouette qui l'aurait mené à la vitesse du Concorde ». Quant à son compagnon d'écurie belge, Olivier Gandebien, il se souvient « Pendant les essais, Fangio m'avait fait signe de le suivre. En 3 jours, j'ai plus appris qu'en 5 ans de compétition. » Diable ! Mais quel est donc le secret de ce Speedy Gonzalez de la Formule 1 ? Fangio est né le 24 juin 1911 à Balcarce, au sud de Buenos Aires, d'un père maçon qui est arrivé d'Italie, des Abruzzes, à l'âge de 7 ans, et d'une mère argentine qui travaille comme pantalonnière. Quatrième d'une fratrie qui en compte à vite 6, ses parents le baptisent Juan parce qu'il naît le jour de la Saint-Juan, la Saint-Jean, et Manuel car son père vénère le roi d'Italie. Juan Manuel est le plus italien des Argentins. Garçon chétif, Juan Manuel a deux passions. Le football, où ses jambes arquées qui lui donnent sa démarche chaloupée le font surnommer El Chueco, quelque chose comme à cheval sur un tonneau, et l'automobile, dont la mythologie est en train de naître. À 11 ans, c'est décidé. L'école, très peu pour lui. Juan Manuel Fangio entre comme apprenti dans un garage. Son boulot consiste à balayer l'atelier et essuyer le cambouis. Mais quand il n'y a personne pour le voir, Il s'assoit en douce au volant d'une grosse Panhard Levasseur qu'il ose même un jour démarrer. Le plaisir d'entendre rugir un moteur. Il apprend bientôt à conduire en livrant les voitures des clients sur les routes défoncées en terre battue. C'est là, dira-t-il, qu'il découvre comment décrypter les surfaces instables et changeantes de la route grâce aux sensations transmises par les roues et le volant. Les années passent, Juan Manuel adore piloter, mais il n'a pas les moyens de se payer une voiture de course. Alors, il plonge à deux mains dans les moteurs, les bricole, les modifie, booste leur performance. À 17 ans, un riche client engagé dans une course le prend comme copilote. Ce sont ses premiers frissons. À 22 ans, il rentre du service militaire plein de force, les épaules carrées, les bras musclés et plein d'énergie aussi. Avec son frère, il ouvre un garage et très vite participe à ses premières courses. Son coup de volant lui vaut une petite réputation. Une cagnotte est lancée dans sa ville de Balcarce, des centaines d'habitants se cotisent. Fangio note tout sur un grand cahier et se paye un coupé Chevrolet, se lance dans la folie de l'époque des rallyes marathons de plusieurs milliers de kilomètres à travers l'Amérique du Sud. En 1940, il a 29 ans. Fangio s'inscrit au Gran Premio International del Norte. Une course monstrueuse, un trajet Buenos Aires-La Paz-Lima. Aller-retour, soit 10 000 km sur des pistes en terre, avec en prime une traversée de la cordillère des Andes. Le 27 septembre, à minuit, le départ de la première étape est donné dans la capitale argentine, avec 1363 km à relier d'une seule traite. Fangio se lance pied au plancher. Contrairement aux autres concurrents, il ne se fait pas relier, il conduit non-stop. Pour lui, nul besoin d'une pause toutes les deux heures. Il tient le volant pendant 10 heures, 49 minutes et 7 secondes. Et il remporte cette première étape à une moyenne de 126 km/h. Une résistance exceptionnelle. Conduire ne m'a jamais fatigué, commentera-t-il sobrement, qu'il cultive par une discipline exigeante. Pas de tabac, pas d'alcool et un régime alimentaire strict. Dans la suite de sa carrière, il prendra l'habitude de se contenter le soir, racines italiennes obligent, d'un plat de taglioni, un brodo, des spaghettis très fins servis dans un jus de pot-au-feu. En attendant, Fangio remporte l'épopée sud-américaine après 110 heures au volant et une douzaine de jours. Sa mère ne le reconnaît plus. Il a perdu 7 kilos, mais il a gagné son billet pour de nouvelles aventures. D'autant qu'il a maintenant un supporter au bras long, le nouveau président argentin Juan Perón, lui-même féru de belle mécanique, qui va le soutenir largement par passion et aussi pour soigner la propagande de son régime. En 1950, Fangio a déjà 39 ans. C'est un homme trapu, 1m73 pour 90 kg, le crâne dégarni, mais qu'on ne s'y trompe pas, il a la fougue et l'appétit d'un jeune loup. Et ça tombe bien, puisque cette année-là est créée la première édition du championnat du monde de Formule 1. Fangio vise la pole position. En débarquant bientôt sur le vieux continent, il ne va pas avoir besoin d'un long temps d'adaptation. La presse transalpine est montée sur ses grands chevaux. Quoi ? Un étranger a signé chez Alfa Romeo, la perle des écuries italiennes ? En plus, c'est un bleu. Il découvre tout juste la Formule 1. Bien sûr, en 1948, quand le constructeur français Amédée Gordini, sur une géniale intuition, lui a offert le volant de Maurice Trintignant, indisponible pour le Grand Prix de Reims, Juan Manuel Fangio a placé sa Formule 2 en première ligne. Puis, l'année suivante, il a multiplié les courses sur tous les circuits et aligné des victoires sur des monoplaces très différentes. Mais là, en 1950, c'est du sérieux, c'est la Formule 1. Et c'est le premier championnat du monde de l'histoire. Mais Fangio n'est pas impressionné. Le pilote est prêt à défier la superpuissante Alfetta 158 avec ses 350 chevaux, mais tellement lourde avec ses deux réservoirs, 120 litres au 100 quand même. Le premier atout de l'Argentin, c'est son passé de mécanicien. Il comprend les moteurs. « Quand je découvre une voiture, dira-t-il, je demande au mécano quelle est sa puissance maximum et je ne dépasse jamais cette limite. » Son deuxième secret, une préparation minutieuse. Il ne laisse rien au hasard. Pour le Grand Prix de Monaco, le deuxième de ce nouveau championnat, où ce 21 mai 1950, tout le monde l'attend après son arrivée à la troisième place au tout premier Grand Prix de Grande-Bretagne la semaine précédente, il va reconnaître la totalité du circuit à pied, mètre par mètre. Il décèle méthodiquement les pièges de la chaussée, ses déformations, la position et les arêtes des trottoirs. Il procédera ainsi toute sa carrière, à pied pour les circuits jusqu'à 4 km, à vélo jusqu'à 8 km et en scooter au-delà. Mais sa botte ultime, c'est lui-même. Fangio a un incroyable instinct. Avant le départ, dit-il, je suis un peu nerveux jusqu'à ce que je m'installe au volant, mais une fois dans la voiture, tout disparaît. Je deviens quelqu'un d'autre. Quelqu'un capable, par exemple, de faire glisser sa voiture en dérapage contrôlé à 200 à l'heure. Le jour J, à Monaco, et son circuit tracé au centre de la ville, le génie répond présent. Fangio place sa monoplace en première ligne. Le spectacle peut commencer. Il faut imaginer l'Alfetta 158 avec son capot long comme une torpille, frappé du trèfle à quatre feuilles de la firme de Milan. Le moteur est à l'avant et le pilote, le buste à l'air libre, entièrement visible, doit affronter les vapeurs d'essence, les projections d'huile et la chaleur. On voit bien son visage, il ne porte qu'un serre-tête et des lunettes d'aviateur. Pas de casque, pas de combinaison, un coureur en liberté. Ça y est, les voitures s'élancent. Il y a des Ferrari, des Maserati, des Simca Gordini, des Talbot. Fangio ne déçoit pas. C'est sa première saison avec une voiture aussi rapide et puissante, mais il a vite fait de la dompter. L'Argentin part en tête, l'entame parfaite. Mais derrière lui, Farina, son premier poursuivant, également sur Alfetta, se fait surprendre dans le virage du bureau de tabac sur le port. Un vent violent a poussé un paquet de mer par-dessus le parapet. Farina dérape, heurte un muret et s'immobilise au milieu de la chaussée. La troisième Alfa surgit, cherche à l'éviter, mais se met en travers. La piste est largement obstruée. Une Maserati les évite de justesse, mais heurte une Alfa et prend feu. Son pilote est sérieusement blessé. Puis les autres bolides déboulent. Certains passent, d'autres s'encastrent dans la mêlée. La confusion est à son comble. Des centaines de litres d'essence se sont répandus sur le circuit. Mais voilà Fangio, qui a bouclé son premier tour et sort à nouveau du tunnel. Le public frémit. Le pilote, qui toujours regarde au loin, a heureusement vu l'agitation. Il ralentit, puis s'arrête totalement. Il se retrouve bloqué un instant. Pour se dégager, il lève les bras du volant et tout en sang-froid, pousse ses roues arrière à la main pour reculer. Et c'est reparti. Réglé comme une machine, tour après tour, Fangio replace ses roues exactement au même endroit dans chaque virage, selon la trajectoire idéale qu'il s'est construite. Il ne sera plus inquiété. Le Bleu remporte ce jour-là son premier Grand Prix en Formule 1. Fangio se classe directement tout en haut. Il est devenu le maître. Il fait l'unanimité. Fidèle à ses origines modestes fondées sur le travail, il n'a pas le triomphe exubérant. Au compliment, il répond par un clin d'œil qui deviendra presque un tic. Ce jour de mai 50, il prend le temps de se nettoyer le visage, de se donner un coup de peigne et d'enfiler une veste pour cacher sa chemisette jaune maculée d'huile avant de rejoindre le prince régné qui lui remet le trophée. En 1950, pour ce premier round, il manque de peu le titre mondial, mais l'année suivante, c'est fait. Fangio est champion du monde de Formule 1 en 1951, coiffant les Ferrari de justesse en Espagne lors de la 8e et dernière manche du Grand Prix. À Barcelone, Fangio, grand seigneur, régale au restaurant les autres cadors de la F1, puis il achète une caisse de champagne pour ses mécanos. À Buenos Aires, l'accueil est grandiose. Il se sent invincible, capable de tout rafler. Mais peut-être est-il un peu trop gourmand ? Tout juste auréolé d'un premier titre de champion du monde, Fangio n'a qu'une hâte, renouveler l'exploit en 1952. Alfa Romeo, sa première écurie dont les Alfetta ont fait leur temps, quitte la compétition. Le champion prend maintenant le volant d'une Maserati qui développe un nouveau bolide doté d'un 6 cylindres en ligne de 2 litres. En attendant que la voiture soit prête, l'Argentin, qui ne vit que pour piloter, multiplie les courses hors championnat, passant d'une voiture à l'autre. Début juin 1952, Fangio se retrouve en Irlande pour disputer l'Ulster Trophy à bord d'une monstrueuse BRM anglaise de 16 cylindres et quelques 600 chevaux. Dès le lendemain, il doit être à Monza, l'autodrome en banlieue de Milan, où il doit étrenner sa nouvelle Maserati. Il a prévu de voyager à bord de l'avion privé d'un très riche pilote de Formule 1, le prince Bira de Siam. Au dernier moment, pourtant, un contretemps. Le vol part sans lui. Fangio prend aussitôt un avion pour Londres, puis rejoint le Bourget. Comble de déveine, les vols vers l'Italie sont annulés à cause du mauvais temps. Le train, trop long. Renoncer, jamais. Alors Fangio prend la route, conduit toute la nuit pour arriver exténué, mais dans les temps, dimanche midi, une petite heure avant le départ. Chapeau. Rien n'arrête El Chueco. Il prend le départ, plus motivé que jamais. Mais sa course va durer 3 minutes. Oui, une seconde d'inattention et la monoplace se met en travers. Bottes de paille, bordure en pierre, sortie de piste, auto-retournée, Fangio est littéralement éjecté. Le champion se réveille à l'hôpital, la colonne vertébrale est touchée. Diagnostic réservé, écrit le Figaro du lendemain. Emporté par sa passion, Fangio a pêché. Pareil que c'est de confiance. C'est son casque, obligatoire désormais depuis le début de cette saison, qui lui a sauvé la vie. 45 jours d'hôpital, la nuque 5 mois dans un plâtre, Fangio ne conduira pas de sitôt, plus de la saison en tout cas. L'année suivante, en 1953, sa Maserati ne peut rivaliser avec la Ferrari du champion italien Alberto Ascari, numéro 1 mondial pour la deuxième année consécutive. Fangio ronge son frein. La nouvelle bonne étoile de l'Argentin, ce sera Mercedes, le constructeur allemand qui revient à la compétition en 1954 avec une voiture révolutionnaire dont le carénage enveloppe les roues. Lors de sa première course à Reims, sur le bolide surbaissé, Fangio pulvérise le mur des 200 km/h de moyenne, une première sur un circuit européen. L'alliance Fangio-Mercedes est imbattable. Le titre de l'année 54 est emporté sans contestation. Ferrari est dans les choux et l'année suivante, rebelote. Pour le premier Grand Prix disputé chez lui en Argentine, Fangio signe un nouvel exploit. Buenos Aires boue comme un chaudron. Il fait 50 degrés. Les pilotes se relaient pour tenir le coup. Pas Fangio, qui s'accroche au volant pendant 3 longues heures. Il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, mais au bord de la syncope, incapable de sortir de sa voiture pendant plusieurs minutes, avant de se traîner jusqu'à la loge présidentielle, où il reçoit les félicitations du président Perón. Il a des brûlures au second degré sur la jambe. Les combinaisons ignifugées viendront plus tard. La résistance du superpilote a ses limites. Mais 1955, c'est aussi l'année du plus grand drame de la course automobile qui survient le 11 juin aux 24 heures du Mans. La course mythique que Fangio rêve d'accrocher à son palmarès. Cette année, avec Mercedes, ce pourrait être la bonne. Porté par une voiture ultra-performante et un service de course de 200 personnes, l'Argentin, après 2h30 de course, est à la lutte pour la première place quand l'accident se produit. Heurtant l'arrière d'une autre voiture, une Mercedes, pilotée par l'évêque, s'envole contre un muret et se désintègre. Ses morceaux, transformés en projectiles, fauchent le public massé au pied des tribunes. On dénombre 84 morts, tandis que le pilote éjecté est tué sur le coup. Mercedes décide de se retirer de la course alors même que Fangio est en tête. Le cœur n'y est plus. La firme quitte la Formule 1 la saison suivante. Fangio, sonné et âgé de 44 ans, décide lui aussi de raccrocher. Mais le destin va en décider autrement. À l'automne 1955, le président Perón, lâché par l'armée, est forcé à la démission et à l'exil. Fangio prend peur. Ne va-t-il pas perdre tout ce qu'il possède dans son pays, lui qui était si proche du président ? Alors, pour assurer ses arrières avec un vrai bon sens paysan, il se résout à repartir pour un tour. Bien lui en prend, il en a encore sous le capot. Juan Manuel Fangio signe avec Ferrari en 1956 et il devient champion du monde. Puis l'année suivante, il part chez Maserati et il triomphe encore. La course de Nürburgring, que je vous racontais au début de mon récit, est son apothéose. Sa plus belle course, dira-t-il. Son bilan en Formule 1 est sans appel. 7 ans, 24 victoires sur 51 Grands Prix disputés en championnat. Maintenant, Fangio va seulement piloter au gré des courses ou simplement se rendre aussi là où on l'invite pour le plaisir et le plaisir de l'argent aussi. C'est ainsi que le soir du 23 février 1958, on le retrouve à La Havane, à la veille du Grand Prix de Cuba, auquel il a été invité par le dictateur Fulgencio Batista. Il bavarde tranquillement dans le lobby de son hôtel quand soudain 3 hommes armés surgissent. L'un d'eux, aux allures d'étudiant, pointe un revolver et intime à Fangio « Vous allez devoir m'accompagner ». Et le champion est forcé de monter dans une Plymouth verte qui démarre à toute allure dans la nuit. Stupeur, Fangio a été enlevé. Mais où est passé Fangio ? En 1958, le champion argentin, couronné de 5 titres mondiaux en Formule 1, s'est volatilisé dans la nuit de La Havane, emmené donc de force par un commando armé. Peu avant minuit, ce dimanche 23 février, coup de fil anonyme, en voici la teneur.
Je parle au nom du mouvement du 26 juillet. Nous avons séquestré Juan Manuel Fangio à 20h55.
Le mouvement du 26 juillet ? Oui, un groupe de révolutionnaires, partisans de Fidel Castro, qui mène une guérilla contre le dictateur cubain Batista. Objectif de l'enlèvement, faire parler de leur cause tout simplement. Et ça marche. La nouvelle fait le tour de la planète. Paris Match y consacre un reportage de 13 pages qui sera vendu dans le monde entier. Et Fangio, dans tout ça ? Eh bien, il est comme un coq en pâte. Oui, ses ravisseurs sont aussi des admirateurs. Ils se sont renseignés sur ses habitudes alimentaires, lui font de bons petits plats et lui offrent leur meilleure chambre. Le champion sera libéré avec tous les égards après tout juste 27 heures de détention, gracieusement déposé à l'ambassade d'Argentine. 23 ans plus tard, quand Fangio revient à Cuba pour finaliser la vente d'une flotte de camions Mercedes, Fidel Castro lui présente même ses excuses pour cet enlèvement. Fangio, qui se retire définitivement des circuits cette année-là, saura faire fructifier sa notoriété et ses relations pour amasser une fortune considérable. Avisé, organisé, prudent, il a hérité du sens de l'épargne de ses ancêtres, les Abruzzes. Président de la filiale argentine de Mercedes, il possédera concessions automobiles, stations-service, cinéma géant, appartements et même une ferme de plusieurs centaines d'hectares. Un homme riche et respecté. En 1995, Juan Manuel Fangio meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 84 ans. L'Argentine décrète 3 jours de deuil national. La fin de la belle histoire ? Pas tout à fait. Je ne vous ai pas parlé de sa vie privée. Fangio restait discret sur le sujet, disant seulement regretter de n'avoir pas fondé une famille. « Je n'ai pas eu le temps de me marier, j'ai épousé l'automobile. » En 2015, pourtant, 2 hommes font une demande de recherche en paternité. On exhume le corps de Fangio. Oscar et Ruben sont bien ses fils biologiques. En 2021, c'est un 3e fils qu'on lui découvre, Juan Carlos. Mais ça, c'est la face cachée du champion. Son héritage, c'est plutôt cette pression que l'on a pris l'habitude de lancer au conducteur un peu trop pressé en citant toujours son nom. « Hé, tu t'es pris pour Fangio ou quoi ?»
Europe 1, historiquement vôtre.